Ce soir, nous recevons Gérard Ferret, que je vais vous présenter un peu plus en détail, qui est professeur à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, membre de l'Académie des sciences, médaille d'or du CNRS. Il va nous parler des miracles des trous ou une réponse des solides hybrides poreux aux problèmes sociétaux actuels. Je pense que vous verrez que l'on va de la plus forte la théorie aux applications. Donc cette conférence s'inscrit dans le cycle que nous proposons jusqu'au 29 mai, c'est-à-dire jusqu'à dimanche prochain. Je vous rappelle aussi, comme vous pouvez le trouver, le voir sur les dépliants qui sont à votre disposition sur les tables, que l'Université de tous les savoirs, dans le cadre de la diversification de ses activités, organisera cette année pour la seconde fois les entretiens du jeu de paume sur la démocratie, en coopération avec le domaine et le château de Versailles. Ça a lieu dans la salle du jeu de paume, la salle où fut prêté le fameux serment du jeu de paume en 1789. Et ces rencontres consacrées à la séparation des pouvoirs, c'est un thème qui est assez d'actualité, se dérouleront les 17, 18 et 19 juin. Vous pouvez vous inscrire et la documentation est à votre disposition. Bien sûr, nous sommes disponibles, accessibles de multiples manières. Bon, il y a les ouvrages que nous avons publiés. Il y a notamment aussi notre présence sur Internet, je le répète une fois encore, sur le site www.utls.fr. Vous pouvez trouver l'intégralité des conférences qui ont été données depuis le 1er janvier 2000. Vous pouvez trouver en accès libre et gratuit l'intégralité des textes qui ont été mis à disposition par les conférenciers, notamment ceux qui ont été publiés ensuite chez Odile Jacob et dont l'Université de tous les savoirs a conservé les droits. Vous pouvez trouver les enregistrements vidéo de toutes nos conférences, les présentations PowerPoint ou les textes quand il y en a pour les conférences plus récentes. Vous pouvez aussi trouver les conférences que nous donnons régulièrement dans le cadre de l'Université de tous les savoirs au lycée, puisque c'est un aspect de notre activité tourné vers, je dirais, la formation, l'information et la motivation des jeunes lycéens. C'est un aspect de notre activité qui n'est peut-être pas connu de vous, mais qui est très important. Donc j'en viens à la présentation de la conférence de ce soir, « Le miracle des trous, une réponse des solides hybrides poreux aux problèmes sociétaux actuels » par Gérard Ferret. Comme je l'ai dit, il est professeur à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, membre de l'Académie des sciences. Il s'est vu décerner l'an dernier, en 2010, la médaille d'or du Centre national de la recherche scientifique, ce qui est une des plus hautes récompenses françaises possible dans le domaine de la recherche. De 67 à 95, c'est-à-dire pendant beaucoup d'années, il a été professeur à l'Institut universitaire de technologie du Mans. De 88 à 92, il a été directeur adjoint du département de chimie du Centre national de la recherche scientifique. En 1996, il a créé l'Institut Lavoisier, une équipe du CNRS, à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Et de 99 à 2009, il a été aussi, en plus, membre de l'Institut universitaire de France. Il est vice-président de la Société chimique de France. Bon, je ne m'attarderai pas sur ses spécialités parce que je n'aurai pas vraiment toute la compétence pour le faire. Mais disons qu'il s'intéresse à la structure, aux mécanismes de formation, à la prédiction structurale et aux applications des solides poreux inorganiques et hybrides, et ainsi que à leur application industrielle. Ses travaux lui ont valu une réputation internationale assortie de prix prestigieux, et il a aussi déposé un nombre significatif important de brevets. Voilà. Je vais lui laisser la parole, selon l'habitude, pour une cinquantaine de minutes ou plus, selon ce qu'il selon ses besoins, et puis ensuite Monsieur Ferret répondra à vos questions. Merci.
Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à tous. Je voudrais d'abord remercier l'Université de tous les savoirs de m'avoir invité, c'est un honneur, et d'avoir consacré toute une semaine à la chimie. Vous savez que c'est l'année internationale de la chimie et c'est l'occasion pour nous d'expliquer un peu notre discipline, trop souvent décriée par ignorance, souvent, ou par peur. Et j'aimerais que, au cours de mon allocution, qui sera suivie par beaucoup d'autres toute la semaine, vous expliquer un peu non seulement ce que l'on fait, mais aussi comment on est arrivé à ce que l'on fait. Alors, vous avez parlé de ma dernière spécialité, c'est ma quatrième vie scientifique, et elle m'occupe depuis 1992, et j'ai la prétention, je ne suis pas le seul, de considérer qu'un scientifique, c'est aussi un artiste. Et c'est pourquoi j'ai intitulé ma conférence « Les chemins inattendus de la création ». Bien sûr, on sait toujours ce que font les chimistes, ce que produisent les chimistes, mais comment est-ce qu'ils sont arrivés à faire ce qu'ils font? Et dans mon cas, effectivement, ça a été les solides poreux. Et vous allez voir que ce sont des matériaux à la fois très anciens, mais les nouveaux matériaux poreux sont extrêmement prometteurs. Alors j'ai dit, le chimiste, c'est un artiste. Un peu. Et j'aime bien cette phrase de Picasso qui dit que l'art est une science transcendée par l'art, et la science peut également être un art. En effet, la chimie, c'est la science mère, probablement la plus ancienne avec les mathématiques, et elle est devenue, dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, elle est incontournable et unique dans l'univers des sciences expérimentales. En effet, c'est un chimiste célèbre, Marcellin Berthelot, qui avait dit que c'est la chimie est la seule science qui crée l'objet de ses études. Donc il y a deux mots importants, créer et études. Et comment est-ce qu'on en est arrivé là? Alors, je parlais de science mère. Alors, au départ, bien sûr, chaque branche de la science s'est développée de manière indépendante. Au départ, c'est évident. Mais elle est ensuite devenue, au fil du temps, extrêmement interdisciplinaire. En effet, au départ, qu'est-ce qu'on aurait pu trouver comme rapport entre Platon, les Bragues, Péréfis, Pasteur et Linus Pauling? Quel rapport entre la philosophie, la géométrie, la physique, la biologie et la chimie? Bien d'abord, ça a été pour tous l'observation de la nature et surtout une curiosité irréfragable. Et si on se pose la question des rapports, quel rapport pouvait-il y avoir entre Platon et ses polyèdres, les Bragues et la diffraction des rayons X, Pasteur à la fois la cristallographie et les virus, et Linus Pauling les vitamines? Eh bien, c'est ce que tous ces savants et leurs successeurs ont su regarder au-delà de leur domaine pour savoir ce que savaient les autres et puiser dedans pour leur propre démarche. Alors c'est ainsi qu'est né cette interdisciplinarité dont on parle maintenant beaucoup. Et ce qui veut dire que pour le chimiste, il doit avoir en même temps des notions de mathématiques, de physique, de biologie, pour valoriser les produits qu'il crée. Alors, la chimie, c'est d'abord une création, effectivement. Alors, ce processus créatif peut être le fruit d'un hasard, d'une logique implacable, être issu d'un rêve, d'une frustration, voire d'une folie, mais c'est toujours d'une liberté et d'un questionnement. Donc la question principale, c'est comment vient l'idée et comment s'établit ensuite la stratégie. Alors c'est parfois surprenant, et vous me permettrez de parler du cas que je connais le mieux, c'est le mien, et le sous-titre de ma conférence, c'est « L'œcuménisme des trous » ou encore de Vasarely à BASF. En effet, pourquoi est-ce que j'en suis arrivé au poreux à partir de 1992? C'est d'abord parce que, adolescent, j'ai eu une passion pour Vasarely qui, avec ses figures géométriques, rappelait un peu les structures que j'ai ensuite étudiées. Ça a été ensuite une fascination esthétique pour les anciennes zéolites, les anciens matériaux poreux, qui avaient des figures géométriques absolument admirables et que je n'avais jamais pu étudier au début de ma carrière, puisque je n'étais pas dans un laboratoire qui s'intéressait à cela. Et puis, Pourquoi est-ce que je me suis lancé là-dedans? C'est parce qu'aux alentours de 50 ans, je suis tombé un jour sur une publication qui était une ineptie totale. Le contenu de cette publication était truffé d'erreurs impardonnables pour le journal qui les avait acceptées. Donc j'ai décidé de regarder un peu de près ce qui se passait. Et alors, pour ceux qui ne sont pas familiers, et pour vous donner un peu des codes de représentation pour la suite de mon exposé, donc, quand on a des composés organiques, on peut les représenter sous forme compacte, soit sous forme d'atomes et de liaisons, et simplifier au maximum en ne représentant que les liaisons. C'est également vrai pour les composés inorganiques, avec la même démarche, sauf que maintenant, pour différencier partie organique et partie inorganique, on utilise les polyèdres qui entourent un cation. Donc dans tout ce qui suit, tout ce qui sera polyèdre sera partie inorganique, tout ce qui sera liaison sera partie organique. Alors, l'idée. Il faut une idée au départ. Et à partir de cette résonance entre les peintures de Vasarely et la structure de nos minéraux, est-ce qu'il était absurde d'imaginer une chimie des trous? Est-ce qu'elle était originale? Est-ce qu'elle pouvait être esthétique? Et surtout, est-ce qu'elle pouvait être utile? Alors, ces réflexions d'Einstein m'ont beaucoup servi. Si une idée ne paraît pas d'abord absurde, alors il y a peu de chances qu'elle devienne un jour quelque chose. Et bien sûr, l'imagination est toujours plus importante que le savoir. Alors, les solides poreux, j'y viens. Qu'est-ce que c'est? Alors, ces solides poreux ont une triple caractéristique qui est unique dans le domaine du solide. C'est-à-dire qu'ils ont un squelette, c'est-à-dire l'assemblage dense des atomes, et ces assemblages denses laissent périodiquement des trous dans les trois directions de l'espace, des trous de dimension extrêmement bien connues, qu'on appelle les pores, et à la surface de ces pores, les atomes qui sont en surface forment ce qu'on appelle la surface spécifique, ou la surface interne, qui sera responsable de nombreuses propriétés, en particulier catalytiques. Alors, d'où est-ce que ça vient? Ça vient d'abord d'une curiosité de minéralogiste, un Suédois qui s'appelait Kronstedt, qui en 1756 étudiait le comportement thermique, comment se comportaient les minéraux en fonction de la température. Alors, le minéral qu'il utilisait, c'était de la stilbite qui est là. Et quand il a chauffé cette stilbite, il a vu d'un seul coup apparaître des bulles en surface du minéral. Phénomène étrange, inexplicable, inexpliqué pendant très longtemps, même si on avait compris qu'il devait y avoir des trous à l'intérieur. Et il a fallu attendre 1930 et les travaux d'un génie de la chimie du XXe siècle, Linus Pauling, pour faire la structure, décrire, étudier la structure cristalline de tous ces composés et voir qu'en définitive, effectivement, il y avait le squelette qui est représenté ici sous forme de polyèdre, et à l'intérieur, des ions ou des molécules à l'état libre, en l'occurrence pour la stilbite de l'eau, il suffisait de chauffer la stilbite pour que l'eau se vaporise et fasse les bulles en surface. Donc le phénomène était compris. Alors, bien évidemment, on a aussitôt les trous, on laissait l'imagination des chimistes se développer. Et on a très vite utilisé ces systèmes poreux, soit comme tamis moléculaires, qui laissent passer les petites molécules et pas les grosses, soit un échangeur d'ions, que vous utilisez régulièrement pour avoir de l'eau un peu plus pure. Et ce qui a fait la fortune des solides poreux, c'est leur capacité de casser les huiles lourdes, casser les grosses molécules huileuses de pétrole, pour arriver à les transformer en molécules légères qui seront les essences que vous utilisez. Alors, il y a deux types de solides poreux. Alors, les solides purement inorganiques, c'est ceux-là qui sont connus depuis longtemps, depuis Kronstedt. Donc ça a été les zéolithes. Zéolithes, ça veut dire la pierre qui boue. Vous comprenez pourquoi? Ensuite, on a trouvé des phosphates métalliques qui avaient les mêmes caractéristiques. Et puis, depuis 1989, et la découverte d'un Australien, Richard Drapson, qui a découvert les mêmes produits, mais cette fois-ci, le squelette, au lieu d'être purement inorganique, était composé de parties inorganiques et de parties organiques, mais toutes liées par des liaisons extrêmement fortes. Alors, donc, ces produits étaient potentiellement intéressants. Donc, quelle stratégie est-ce qu'on a développée ? Alors, d'abord, l'idée n'est plus absurde, elle est possible, donc est-ce qu'elle est maintenant généralisable ? Ce qui était une curiosité de laboratoire, pouvait-il devenir un thème de recherche ? D'où l'approche classique du chimiste, avec les méthodes d'essai et d'erreur, on regarde, on examine les possibilités dans les systèmes d'avoir ces solides. Ensuite, il faut voir quels sont les paramètres qui influencent la formation de ces solides. Donc, là, c'est classique pour les physico-chimistes, regarder l'évolution paramétrique des systèmes. Et, beaucoup plus difficile, est-ce qu'il était passé ? Comment se forment ces solides ? C'est-à-dire, comment s'effectue la réaction ? Et ça, on ne le savait pas. Alors, nous l'avons résolu, je vous l'expliquerai, en déterminant les mécanismes de formation de ces solides. Ensuite, à partir du moment où on sait comment ils se font, est-ce qu'on peut faire le design, diraient les Américains, je dirais du sur-mesure en bon français, et prédire également ce qu'on va faire ? La réponse est oui, et à partir du moment où on sait non seulement faire, mais prédire, à ce moment-là, on peut regarder les applications, en particulier en physique et en biologie, ce qui compte de plus en plus. Et bien sûr, tout ceci se fait à l'échelle du laboratoire. Donc, le produit est déterminé maintenant intéressant. J'ai parlé de problèmes sociétaux. Ça veut dire que le produit qu'on a fait à l'échelle du laboratoire, à l'échelle du gramme, voire d'une dizaine de grammes, est-ce qu'il peut devenir utile ? C'est-à-dire utile à la société à cause de ses propriétés. Et pour qu'il soit utile, il faut le produire à grande échelle. Et ça, c'est le métier, non pas du chimiste, mais du chimiste, du génie chimique, des industriels. Et donc, si on veut que la palette soit complète, de la création jusqu'à l'application, eh bien, il faut passer par toute cette succession d'étapes que je vais vous détailler maintenant. Pour faire tout ça, j'ai une palette d'outils absolument extraordinaire. J'ai bien sûr toute la variété des synthèses chimiques, qu'elles se soient classiques, en hydrothermale, sous forme de chauffage micro-ondes, etc. Tout l'aspect structural, je vais le caractériser par des outils de diffraction, que ce soit la rayon X, les neutrons et les électrons. En plus, en termes de propriétés physiques, ma longue fréquentation des physiciens m'a appris un peu de physique. Et donc, on peut accéder par les spectroscopies à des propriétés à l'échelle locale et non pas macroscopique, au magnétisme, à la conductivité, à l'optique, et en ce qui concerne, ce sera une propriété importante, l'adsorption d'espèces dans les pores. Comme je l'ai dit, on peut prédire, donc, on a recours à la simulation numérique, et bien sûr, tout n'est possible que si la thermodynamique l'autorise. Alors, j'avais un avantage. L'avantage, c'était que toutes ces synthèses se font à relativement basse température, c'est-à-dire moins de 200 degrés. Ça, c'est l'avantage, c'est ce qu'on appelle la synthèse solvothermale, qui a lieu dans des petites autoclaves, dont vous avez le schéma et la vue réelle. Le problème, c'est que c'est une boîte noire. On sait ce qu'on met dedans, on sait ce qu'on sort, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Ça, personne ne le savait. Il y avait des conjectures, des élucubrations, mais il n'y avait pas de fait expérimental pour savoir comment ça se faisait. Alors, on a ouvert la boîte, c'est-à-dire qu'on a développé des méthodes qu'on appelle in situ, qui consistent à étudier l'évolution des espèces pendant la réaction, et non pas regarder après ce qui se passe. Et on a pu constater que parmi les deux types d'hybrides dont je vous ai parlé, les deux types de poreux dont je vous ai parlé, hybrides ou purement inorganiques, l'avantage allait très vite au solide hybride organique-inorganique. Par ces caractéristiques qui sont là, squelette neutre, faibles interactions avec les particules insérées, la structure est préservée par chauffage au moins jusqu'à 500 degrés, et les pores sont très facilement accessibles, ce qui n'est pas le cas avec les inorganiques qui sont liées avec les particules à l'intérieur de manière très forte. Donc quand on chauffe, on casse la structure. Mais immense avantage, c'est qu'en termes de chimie pure, ces solides hybrides, on les fait avec à peu près tous les cations. Associés à l'infinité de ligands organiques qu'on peut connaître, on a très vite une notion d'infini. Alors qu'avec les inorganiques, malgré leur richesse, on met très peu de cations, silicium, aluminium, le plus souvent. Et ce n'est pas facile de moduler la taille des pores et le nombre de combinaisons est donc limité. Ce qui veut donc dire que, après avoir commencé par l'inorganique, j'ai très vite dérivé vers l'hybride. Alors, quels sont les verrous à lever? Il y a beaucoup d'inconnus dans cette classe de solides. Et le premier verrou à lever, c'était effectivement de comprendre comment ça se faisait. Ensuite, puisque c'est les pores qui sont une des grosses caractéristiques de ces solides, au lieu d'avoir ces petits pores comme dans les zéolithes, quand je dis petit, c'est-à-dire inférieur à 1 nanomètre, il fallait essayer de générer des grands pores, le plus possible, et surtout toujours cristalliser de manière à ce que, par des études structurales, on sache toujours ce que l'on faisait. Ensuite, à cause des applications potentielles, il fallait déterminer de nouvelles propriétés utiles à la société, autres que celles bien connues de cracking pétrolier ou de catalyse. Mais si on veut appliquer, si vous allez voir un industriel, il vous dira d'abord, oui, c'est intéressant. Mais vos produits de départ, ça coûte combien? Alors, je vous dis qu'il vaut mieux travailler sur le fer que sur l'iridium. Ça intéressera beaucoup plus facilement l'industriel parce que ça coûte moins cher. Donc, cultivez le faible coût pour avoir une application. Et enfin, comme je vous l'ai dit, connaissant les mécanismes de formation, eh bien, on peut aller jusqu'à la prédiction. Alors, la démarche. Ben d'abord, j'ai regardé les structures. Et vous voyez que ces structures, sous forme de polyèdre ou de polyèdre et liaison, au lieu de regarder comme les autres, simplement le polyèdre lui-même et la connexion des polyèdres, j'ai regardé d'un peu plus haut pour voir que toutes ces structures pouvaient être décrites par des briques beaucoup plus grosses. Vous voyez, comme celle-ci, qui est un assemblage de 9 tétraèdres, ou ici, le mélange de cette petite brique inorganique avec un ligand organique, et c'est la translation de ces briques dans les trois directions de l'espace qui vous régénère le produit final. Alors, deux types de briques, les voilà. Purement inorganique, là c'était phosphate d'aluminium, et inorganique, organique, et les organiques qu'on a utilisés le plus souvent, ce sont des carboxylates, des fonctions COO. Alors, une fois qu'on a décrit les structures en termes de briques, la vraie question qui se pose, est-ce que c'est simplement un outil de description ou est-ce que pendant la réaction, ces briques existent avant que le solide se forme? Et ça, ça a été un gros travail, le développement de méthodes in situ, en utilisant le synchrotron en particulier, mais pas uniquement, pour arriver à prouver que ces briques n'étaient pas simplement un outil de description, mais qu'elles existaient pendant la réaction. Et à partir du moment où on montre ça, après, on joue au Lego. Et c'est pour ça qu'on a développé avec mes jeunes une approche globale, donc au-delà de la méthode classique, chimie, structure, changement des paramètres et on retourne, etc. On est allé plus loin vers les mécanismes, pour trouver quelles étaient les espèces réactives. Puis, ayant connu les mécanismes, on est allé à la prédiction en utilisant la simulation numérique. Ensuite, après, on pouvait revenir, mais de manière raisonnée, à une nouvelle chimie ou passer aux applications. Alors, le problème, je vous l'ai dit, c'est qu'on a une boîte noire. Donc, dans un premier temps, il faut regarder simplement les paramètres qui sont importants, et ce sont la température, le pH, l'acidité du milieu, le temps et les concentrations. Et nous avons pu corréler ces paramètres macroscopiques expérimentaux aux briques qui se formaient. Et ça, ça a été probablement une percée importante pour la communauté. À partir de ce moment-là, on développe ces méthodes in situ, alors que ce soit la RMN, in situ, l'infrarouge, l'exaphs, bien sûr la diffraction en temps réel, et ce qui nous a permis de montrer que la brique existe vraiment. Je vous en donnerai deux exemples simplement. Pour le purement inorganique, le produit qui nous a intéressé, vous voyez, c'est le petit produit qui est en haut à gauche et qui est formé, chaque brique est formée de deux octaèdres et deux tétraèdres de phosphate. Et alors, quand on suit l'évolution de la réaction par RMN, en temps réel, donc c'est-à-dire aux alentours de 150 degrés, 180 degrés, on voit que les monocomplexes initiaux, monocomplexes de phosphate, par élévation de température, alors ils sont caractérisés par leur spectre RMN, ici celui de l'aluminium, et en fonction de l'augmentation de la température, on voit que le nombre de voisins autour de l'aluminium change, qu'ensuite apparaissent des contributions supplémentaires dans le spectre de RMN, qui sera la signature justement des espèces qui réagissent, et aussitôt que réagissent, elles disparaissent. Donc, c'est constant. Ce qui nous a permis de montrer qu'effectivement, il y avait condensation de ces deux complexes pour former une brique très voisine de celle qui existe dans le produit final. Et la connexion entre les deux polyèdres violets ne se fait qu'en fin de réaction. Pour les hybrides, c'est plus simple. On a fait de l'exaphs et on est parti d'un produit dont on savait que le précurseur contenait cette brique triangulaire. Ici, c'était trois octaèdres liés par un sommet. Et on a vu que, quel que soit le temps de réaction et la température de réaction, le spectre exaphs restait globalement le même, même si les intensités variaient. Mais quand on déconvoluait le spectre, il restait strictement identique. Ce qui voulait dire que, puisqu'il restait identique, la brique qu'on avait utilisée au départ restait la même pendant toute la réaction. Ça, c'est une information capitale. L'influence de la température, elle est extrêmement pointue. Là, je vous donne l'exemple d'un système très simple. Ce sont des succinates de cobalt. Et toutes choses étant égales, par ailleurs, il suffit que je change la température, que j'élève la température, pour avoir cinq phases différentes, dont vous verrez que la dimensionnalité, c'est-à-dire au départ, la partie inorganique, ce sont des octaèdres isolés. Quand on chauffe, ils commencent à se connecter entre eux sous forme de clusters, puis de chaînes, puis de plus en plus denses pour former un réseau, à la fin, tridimensionnel. Donc ça, ce sera toujours important quand on pense aux propriétés. En plus, la diffraction nous permet également de regarder le temps au bout duquel apparaissent nos solides. Alors, au départ, comme on travaille à l'aveugle, on se fixait 48 heures pour le temps de réaction. Mais une fois qu'on a fait cette manip au synchrotron, on s'est aperçu que tout était fini en 2 heures. Donc, vous voyez, avoir fait cette manip qui dure 2 jours nous a permis, après, de gagner à chaque fois une journée et demie. Donc, notre rendement a augmenté à cause de cette manip. Alors donc, maintenant, c'est acquis, les briques qu'on voit dans la structure finale existe pendant la réaction. Donc, ça veut dire que, associé à des conditions qu'on fixe, on sait que la brique va exister et qu'elle se retrouvera dans le solide final. Donc, on peut commencer à jouer au Lego. Le problème, c'est que les possibilités sont immenses et on n'a pas du temps à passer pour regarder toutes les possibilités. Donc, sur le principe, c'est simple, on mélange les briques, on obtient le solide, mais la question, quel solide? Et quelle structure? Alors, ça nous a permis de montrer que la partie la plus importante du solide pour eux, c'était la brique inorganique. Alors, bien sûr, elle joue par la nature chimique du métal qui est à l'intérieur. Ici, le cuivre, là, le chrome, vous voyez que les briques sont différentes. Mais surtout, ce qui est important au niveau structural, c'est la connectivité de cette brique avec les fonctions carboxylates qui sont présentées par les 4 carbones qui sont là. Donc, la disposition des 4 carbones va déterminer le nombre de liaisons et les orientations des liaisons avec les autres briques. Et c'est ce qu'on appelle cette connectivité qui déterminera la structure. Alors, au départ, ces connectivités étaient faibles, et maintenant, on arrive à jouer sur des connectivités qui vont jusqu'à 12. Ce qui veut dire que, en termes de topologie, qu'est-ce que c'est qu'une structure d'hybride ? Eh bien, c'est la connectivité d'une brique inorganique, qu'on connaît, avec celle d'une brique organique qu'on connaît, puisque le ligand ne varie pas pendant la réaction. Donc, ça devient une analyse topologique. En jouant sur la température, on va pouvoir jouer également sur la connexion de ces briques inorganiques qui peuvent être isolées, soit sous forme de chaîne, soit sous forme de plan, et même sous forme de tridimensionnel. Ce qui veut donc dire qu'on peut jouer sur la dimensionnalité du solide final, dimensionnalité qui conditionnera les propriétés physiques à l'intérieur du solide. Alors pour le ligand, bien sûr, on peut jouer à la fois sur sa nature, sur sa courbure. Ici, vous voyez, vous avez un isophtalate. Et à ce moment-là, les deux briques sont connectées par un angle non plat. On peut faire varier l'orientation de deux briques par rapport à l'autre en mettant un atome lourd sur le cycle benzélique. On peut jouer sur la longueur du ligand. Et là, vous avez un exemple fameux où, avec la même topologie, la même brique, en jouant sur la longueur du ligand, on passe d'un solide à petit port qui est ici à un solide à grand port qui est là. Donc, vous voyez, ça commence à devenir quelque chose de rationnel. Alors, quand on a compris que la brique était importante, bien sûr, on a appliqué nos méthodes pour rechercher de nouvelles briques, non pas pour, uniquement pour les connaître, mais pour les utiliser et faire de nouvelles structures. Alors, vous voyez qu'il y a des clusters différents, avec des connectivités différentes, des natures et des degrés d'oxydation du métal différents. Donc, vous voyez qu'on rejoint cette quasi-infinité dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, j'ai un petit faible pour celle-là. Et la brique, c'est un octaèdre de ces antiprismes d'Archimède qui donne une connectivité de 12 et un diamètre de port utile, vous voyez, qui atteint cette fois-ci 23 angstroms. Je vous ai parlé des zéolithes, où c'est tout inférieur à 10 angstroms. Donc, on progresse. En jouant sur le ligand, on peut choisir des ligandelles qui soient non centrosymétriques, donc qui vont induire des propriétés de non centrosymétriques qu'on pourra utiliser en optique non linéaire ou en catalyse énantiosélective. Donc vous voyez, on peut introduire d'emblée la propriété qu'on souhaite voir apparaître. On peut utiliser plusieurs briques inorganiques avec le même ligand. On peut même greffer sur la partie organique, cette fois-ci, des espèces qui vont changer les propriétés. Ici, c'est le travail d'un jeune collègue américain qui a greffé ses chromes carbonyles pour ensuite, par ce greffage, fixer beaucoup plus soit de l'azote, soit de l'hydrogène. Donc, vous voyez qu'on commence à maîtriser la chimie. Alors, vous allez me dire, ça y est, tout est résolu. Ben non. Vous savez, quand on est expérimentaliste, on ne prévoit pas tout. Il faut accepter la surprise, et la surprise, ça a été avec un carboxylate de chrome qu'on avait séché. Quand on a mis deux gouttes d'eau sur ce carboxylate, on l'a vu gonfler. Mais le gonflement n'était pas anecdotique, puisque, comme vous le voyez ici, le volume triple. Et non seulement il triple, mais après, si on retire la molécule d'eau et revient à son état initial, et on peut le faire 1000 fois, le produit ne change pas. Donc ça, ce n'était pas attendu, après on l'a expliqué. Je passe sur les explications, elles sont assez subalternes. Et alors, ça veut donc dire que, si on regarde un peu par-dessus notre épaule, on a fait notre travail de chimiste. On a participé à la découverte d'une nouvelle famille de composés. On a maîtrisé leurs caractéristiques. On a su jouer avec leurs caractéristiques pour faire des variations amusantes. Donc, le problème, c'est quelles sont toutes les possibilités. Et ça, on ne peut pas imaginer qu'un expérimentaliste, durant toute sa vie, essaie de trouver toutes les possibilités. Il n'en a pas le temps. Et sa vie n'est pas assez longue. Donc il faut avoir recours à d'autres outils, en particulier l'informatique, qui vous permet par des programmes adaptés d'arriver à faire la liste des solutions possibles. Alors c'est ce que nous avons fait. Donc Les briques existent, je vous l'ai dit. On connaît leur existence, leur géométrie. Donc, on peut bâtir un programme informatique qui, à la fin, va vous donner une solution. Alors, ce programme, on le détermine par une méthode de Monte Carlo avec recuit simulé, ce qui fait qu'à chaque étape du calcul, à chaque fois qu'on a un minimum d'énergie, on a une solution possible. Possible, mais pas forcément intéressante. Donc, en regardant toutes ces informations, vous voyez, on part de la brique, et à la fin, notre programme nous donne non seulement la structure cristalline avec toutes les informations, la structure, la symétrie, les paramètres, les coordonnées atomiques, le diagramme théorique, l'équivalent d'un photomaton pour nous, et ensuite on les classe par stabilité, et la nature faisant bien les choses, vous voyez qu'à partir de 200 000 essais, disons en 24 heures, on arrive simplement à 3 ou 4 qui sont raisonnables en termes d'énergie. Donc c'est le programme que nous avons développé avec une de mes jeunes collègues. Vous voyez, par exemple, si on mélange une brique inorganique très simple avec un ligand très simple, après avoir eu beaucoup de mouvements à l'écran, on voit se figer la structure qui se relaxe ensuite, et quand on regarde, quand on compare les résultats de la simulation avec l'expérience, les résultats sont pour le moins pas mauvais. Donc la méthode est validée. Donc on peut, avec notre programme, partant des briques, arriver à trouver des structures nouvelles. Alors bien sûr, on l'a testé. On connaissait cette brique que je vous ai déjà montrée, ce trimère de trois octaèdres liés par sommet. On a utilisé un autre ligand, on a fait l'expérience et on trouve à ce moment-là un diagramme de rayons X absolument compliqué, énorme, très difficile à interpréter, impossible à partir d'une poudre à interpréter. Ce qu'on a su par l'analyse chimique, c'est que le rapport entre le métal et le ligand, c'était de 3 à 2, qu'il était hautement poreux. Alors, ne vous fiez pas à la valeur numérique, qui est énorme. Je dirais irréaliste. Si vous posez la question, je vous y répondrai. On a cherché la brique qui se formait à partir des petits trimères de départ. C'est celle-là. Vous voyez, on forme des super tétraèdres. Et on trouve à la fin trois solutions, avec des paramètres différents, des symétries différentes, des spectres de rayons X complètement différents, mais quand on compare à l'expérience, pardon, une seule satisfait à la concordance expérience-simulation. Et bien sûr, on a affiné nos données au synchrotron. C'était pas mauvais du tout. Et quand on dessine la structure à partir des coordonnées que nous a donné le programme, on obtient cette horreur. C'est une structure extrêmement complexe, avec des paramètres de maille énormes, des volumes de maille, vous voyez, entre 400 et 700 000 angstrom cubes, c'est-à-dire on est dans la taille des protéines, alors qu'on n'est pas dans la famille des protéines. Alors, notre démarche était simple. On était parti d'un trimère très simple. On l'a mélangé avec deux ligands extrêmement simples, parmi les plus simples, parmi les carboxylates. Et on obtient ces briques énormes. Je dis bien énormes parce que comparé à un col solide que vous connaissez tous bien, la nouvelle forme du carbone, le C60, voilà la taille du C60 à la même échelle. Donc on a des briques énormes et on conçoit après que le solide qu'on trouve est des briques, non seulement des briques énormes, mais des paramètres énormes. Alors vous voyez que ces briques se lient par des sommets et déterminent deux types de cages. Vous voyez la cage jaune ici et la cage bleue ici, qui sont déterminées pour le premier par 28 de ces super tétraèdres, l'autre par 20 de ces super tétraèdres. Et ça forme des cages dont vous voyez les dimensions qui sont très loin des dimensions des zeolites. On a triplé le diamètre des pores. non seulement on a triplé, mais on a atteint une nouvelle classe qu'on appelle les mésoporeux. Avant, les zéolithes, c'était des microporeux, donc un diamètre inférieur à 2 nanomètres. Maintenant, on dépasse et on peut aller où on veut. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est dans la gamme de dimensions des protéines. Donc voilà, le chimiste structural a fait son boulot. Maintenant, pourquoi ? Bien, notre idée, c'est après d'utiliser les propriétés pour en faire des, non pas des produits chimiques, mais des matériaux. C'est-à-dire, non seulement une formule, mais une propriété, et vous allez le voir aussi, la mise en forme associée. Alors pour ça, on fait utile à ce moment-là. On recherche les applications, et bien sûr, on a travaillé en liaison avec l'industrie chimique, je vous montrerai en fin d'exposé. Donc j'ai utilisé la triple caractéristique des poreux, les pores, le squelette et la surface spécifique. Et en jouant sur la composition du squelette, le diamètre des pores, la nature de la surface, j'ai pu atteindre des propriétés comme le magnétisme, la conductivité, la luminescence qui vont concerner les applications possibles en énergie et en économie d'énergie. En jouant sur les pores, je peux stocker des gaz, libérer des gaz. En jouant sur la surface, je peux initier la catalyse. Vous verrez que pour la santé, ces pores vont servir de protection aux médicaments fragiles pour atteindre des organes. Et ensuite, bien sûr, l'application classique de l'absorption de gaz, et en particulier, on s'est intéressé aux gaz à effet de serre. Alors, plutôt que de se disséminer sur des trentaines ou des centaines de produits, on s'est fixé sur les produits qui avaient les meilleures caractéristiques en termes de dimension de pore et de flexibilité de la composition du squelette. Alors, les applications, je vous l'ai montré, de trois ordres, l'énergie et les économies d'énergie, le développement durable et la santé. Alors, en termes, les applications énergétiques. Alors d'abord, c'est le stockage de l'hydrogène. Vous savez que le vecteur hydrogène, c'est un désespoir du futur pour suppléer aux énergies fossiles. Le problème, stocker de l'hydrogène gazeux, il ne suffit pas de le dire. À titre indicatif, une molécule d'hydrogène gazeux à température ambiante à une vitesse de 2 km par seconde. Donc, pour arrêter un tel bolide, il faut vraiment s'en occuper. Donc, nos matériaux fixent l'hydrogène dans les limites que je vous donnerai tout à l'heure. Ensuite, on peut rendre ces matériaux isolants conducteurs et on va les utiliser comme matériaux d'électrode pour les piles à combustible, donc toujours reliés à l'énergie. En économie d'énergie, bien sûr, il y a la catalyse dont je vous ai parlé, mais ça, c'est juste un domaine qui débute à cause de la peur de mes collègues de la catalyse qui pensaient que nos produits étaient fragiles, ce qu'ils ne sont pas, puisqu'on peut atteindre 600 degrés en stabilité. Et quelque chose qui se développe énormément tout de suite, c'est la séparation de gaz. C'est habituellement une opération très coûteuse en énergie, puisqu'il faut distiller, refroidir, etc. Et nos produits font cette séparation quantitativement à température ambiante. Alors l'hydrogène, bon, en tant que chercheurs fondamentaux, au-delà de la performance, on a voulu savoir où est-ce que se fixe l'hydrogène. Alors, la grande leçon à en tirer, c'est que l'hydrogène se fixe exclusivement, tout au moins au début de l'absorption, sur les sites inorganiques. C'est une information intéressante qui donne de nouvelles idées de synthèse. Alors, bien sûr, vous me direz, alléluia, les quantités sont énormes, mais ça n'intervient qu'à 77 K, donc la température de l'azote liquide. Donc, les appliquer, par exemple, pour les voitures, nécessiterait de mettre en amont des refroidisseurs à l'azote liquide. Les solutions technologiques existent, Opel les a découvertes, mais les prix de la voiture deviennent prohibitifs. Donc, pour l'instant, je laisse le stockage de l'hydrogène par nos produits comme une curiosité de laboratoire. Les matériaux d'électrode, comme je vous l'ai dit, nos matériaux sont habituellement isolants. Mais il suffit de rentrer du lithium métallique, parfois électrochimique, pour provoquer la réduction partielle, par exemple, du fer 3+ en fer 2+, ce qui fait que dans la même chaîne, vous avez trouvé, après cette insertion, du fer 3, du fer 2, ce qui permet des sauts d'électrons le long de la chaîne, et simultanément, comme vous avez introduit du lithium dans le tunnel, le lithium il est très petit, et il va pouvoir diffuser le long des tunnels. Donc, avec cette petite manipulation, vous venez de générer en même temps de la conduction électronique dans les chaînes, dans le squelette, et de la conduction ionique dans les pores. Donc, avec mon ami Tarascon, que vous en écouterez demain, si j'ai bien compris, il vous expliquera tout ce qu'on peut en sortir. Donc, ça, c'est la preuve, vous voyez, qu'on a réussi à faire du fer 3 et du fer 2. Les propriétés catalytiques, je vous ai dit, ça débute, donc je ne vais pas, compte tenu du temps qui m'est imparti, je ne vais pas m'attarder dessus. Simplement, j'ai mis des années à convaincre mes collègues qu'il fallait regarder ces propriétés. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la catalyse, mais par contre, je suis disposé à donner mes produits. Et ça commence à donner des résultats, en particulier avec un des plus grands d'entre eux. Gros avantage également, au moment où on parle de nanotechnologie, on a des pores calibrés. On peut générer à l'intérieur des pores des produits, par exemple ici c'est du sulfure de zinc, et quand on génère ces particules à l'intérieur du pore, ça veut dire également que la taille de la nanoparticule est nanodisperse. Donc c'est un moyen de faire des nanoparticules sans distribution de taille. Bon, là on peut mettre du palladium, on génère du palladium également, je pense, et on prouve que le palladium est bien à l'intérieur des pores. Et ça améliore les rendements des propriétés catalytiques, probablement à cause d'un effet de confinement qui génère une pression interne. Développement durable, bon, bien sûr on pense immédiatement au CO2, mais de manière plus générale au solide à effet de serre. Alors suivant que le solide soit rigide ou flexible, on a deux types de comportements. À gauche vous avez les rigides, et vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on augmente la pression de CO2, la quantité de CO2 croît dans des proportions assez considérables, tellement considérables que si on compare, vous savez toujours faire des comparaisons pour se rendre compte. Là, vous avez en noir la courbe de compression du CO2. Donc, vous voyez qu'à 4 mégapascales, on stocke à peu près 50 grammes de CO2. Il suffit, dans le conteneur en acier, de mettre nos produits pour que cette fois-ci, ce ne soit plus 50 grammes, mais plus de 400 grammes qui soient stockés. Donc, là, on a une application importante qui commence à se développer. Quand c'est flexible, au lieu de se faire en une étape, vous voyez que l'absorption, la quantité absorbée se fait en deux étapes. Et ça, ça peut être intéressant pour certains procédés de stockage des gaz. Alors bien sûr, nous on a regardé où se fixait le CO2. Alors là encore, on a fait de la diffraction, on a localisé les molécules de CO2, ça nous a permis de voir que et d'expliquer ce comportement un peu curieux. Sous vide, la structure est ouverte. Quand on arrive au plateau, elle se ferme, puisque c'est flexible, et à plus haute pression, ça regonfle. Et en plus, on a pu montrer que l'interaction se faisait par une interaction entre les quadrupôles du CO2 et les dipôles de liaison OH du squelette. On peut le suivre par infrarouge. Bon, là, vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on introduit du CO2, on voit qu'ici, on peut mesurer la quantité de CO2 introduit. On peut voir ici l'effet de l'introduction de CO2 sur la distorsion du squelette. Et enfin ici, et ça, on ne s'y attendait pas, pardon, on peut voir la signature, soit fermée, soit ouverte, du solide flexible. Donc, on sait ce qui se passe avec le CO2, on a fait de même avec le méthane, on l'a fait également avec les oxydes de soufre, avec les oxydes d'azote, et nos produits sont actuellement parmi les meilleurs, sinon les meilleurs, dans ce type de propriété. On peut également séparer des liquides. Et là, par exemple, vous avez une manip qui a été faite par un de nos collègues belges, où, partant de mélange des isomères de xylène, on en assure la séparation totale en 20 minutes, à température ambiante. Alors, dernier point que je voudrais aborder, parce que c'est sûrement celui qui intéresse le plus le monde, c'est l'apport des solides poreux à la santé. Alors, nous avons des trous suffisamment gros pour mettre dedans des molécules médicamenteuses. Il a fallu d'abord valider l'idée. Pour ça, je suis allé voir un de mes amis biochimistes en lui disant « Quel médicament est-ce que je peux mettre dans ces trous, ces gros trous, pour m'assurer que la méthode que je vais développer est valide ?» Alors, il m'a conseillé l'ibuprofène, vous voyez, celui qu'on utilise pour les maux de tête, et ça nous a permis de valider la méthode. Et ensuite, ayant validé la méthode, puis on est passé à des médicaments beaucoup plus stratégiques contre le cancer et contre le sida, pour voir quelles étaient les performances de nos solides dans ces domaines. Alors pour l'ibuprofène, c'est exceptionnel. La première fois que j'ai montré les résultats à mon ami biochimiste, il m'a dit que tu t'es trompé d'une virgule. Non, non, je lui dis, on a vérifié 10 fois. Et vous voyez que dans une cage de nos grosses structures, on peut mettre 100 de molécules dans une cage. Ça veut dire que notre produit, 1 gramme de produit va stocker 1,4 g d'ibuprofène, beaucoup plus que son poids personnel. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que quand on met ça en milieu physiologique, l'ibuprofène est relargué. Mais au lieu de le faire instantanément, ça se fait lorsque le solide est rigide, en 6 jours. Et quand le solide est flexible, ce n'est plus 6 jours, c'est 3 semaines. Alors, bien sûr, l'ibuprofène n'est pas un médicament stratégique. Mais vous allez voir qu'avec les autres, c'est à peu près du même acabit. Et vous imaginez être malade, être atteint d'un cancer, et au lieu d'avoir une injection tous les jours, en avoir une tous les 15 jours, je pense que ça sera moins désagréable. Alors bien sûr, une fois qu'on avait validé la méthode, on l'a testée sur des produits caractéristiques qu'on avait fait au laboratoire, et donc on a introduit, vous voyez, ces différents médicaments, le busulfan contre la leucémie des enfants, la doxorubicine contre le cancer du sein, la ZTTP pour médicaments anti-sida, et nous avons comparé à l'existant. Alors, quel était l'existant? Ce qu'on appelle donc des nanovecteurs de médicaments. Alors, les nanovecteurs de médicaments, ce sont donc des espèces de petits camions à l'échelle atomique ou moléculaire qui stockent le médicament qu'on fait sous forme de nanoparticules. On fait une injection et le petit camion apporte le médicament protégé à l'organe malade. Alors, le petit camion qui est utilisé actuellement, ce sont des liposomes qui ont des caractéristiques, bon, ce sont des phospholipides avec des petites vésicules qui sont assez fragiles et qui peuvent incorporer à peu près 5 grammes pour 100 grammes de médicaments. Mais c'est ce qu'on utilise. Alors donc, notre but a été de tester les performances de nos produits. Et d'habitude, je ne présente jamais un tableau dans un exposé, mais je crois que là, ça vaut la peine. Je vous dis, les liposomes, 5% de médicaments transportés. Et vous voyez que suivant la nature du produit qu'on a fait, eh bien, on peut atteindre 42%. 42%, c'est presque 10 fois les performances actuelles. En plus, nous avons vérifié avant de commencer ce genre d'études que nos 1000 pour matériaux de l'Institut Lavoisier étaient d'abord non toxiques. Et on les a testés sur des souris, je peux certifier qu'une fois traitées, les souris n'ont jamais été malades. Elles sont même en pleine forme. Donc nos produits sont non toxiques, de manière avérée. Ensuite, on transforme beaucoup plus de médicaments. Ça veut dire qu'on aura beaucoup moins besoin de moins de produits, de nos produits, pour avoir la même efficacité médicamenteuse au niveau de l'organe. Ce qui est pas mal pour l'organisme. En plus, vous voyez que le médicament, suivant sa nature, est libéré entre 3 et 11 jours. Ça, c'est déjà un très gros avantage. Et le dernier avantage, c'est qu'on avait choisi exprès des composés au fer. Pourquoi ? Parce que ces composés au fer ont la particularité d'être actifs en imagerie médicale. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on avait fait nos nanoparticules et qu'on les avait remplies de médicaments, qu'on avait injectés, non seulement on transportait beaucoup de médicaments, mais on était capable de suivre le trajet du médicament jusqu'à l'organe. Ça, c'est le premier exemple réel d'une nouvelle branche de la médecine moléculaire qu'on appelle la théragnostique, qui combine thérapie et diagnostic, et qui laisse beaucoup d'espoir une fois que tous les tests sont passés. Voilà un exemple de l'effet des médicaments, une fois qu'on a fait des coupes dans les organes, non traités et traités, c'est spectaculaire. Alors bien sûr, on ne s'arrête pas là. Maintenant, on essaie de développer d'autres voies, en particulier utiliser les pores ou les tunnels pour faire de la polymérisation orientée, ou faire des nanosciences, je l'ai déjà évoqué, étudier le comportement de nos produits en conditions corrosives, ça peut être important, et bien sûr continuer nos études in vivo. C'est une collaboration que j'ai avec Patrick Couvreur à Châtenay, pour voir si on ne peut pas faire mieux. Alors, produit intéressant, j'espère vous l'avoir prouvé. Produit utile, je vous ai dit qu'il fallait faire de la production industrielle. Alors rassurez-vous, c'est fait. Et notre partenaire, c'est BASF. Et voilà quelques exemples de ce qu'on produit à Ludwigshafen pour l'instant. Là, ce sont des cuves de 250 kg. Mais actuellement, on les fait à une tonne jour à l'unité pilote. Ça veut dire qu'on a fait notre travail, tout au moins je pense, de la création jusqu'à l'utilisation. On peut même faire des pilules, donc la mise en forme, on sait la faire. On peut faire des nanoparticules, on peut faire des films. Alors voilà, j'arrive au bout de mon chemin. Et oui, on vous a dit que j'avais créé l'Institut Lavoisier, donc mon vieux maître se pose la question, un nouveau monde. C'est une question qu'il vous pose. Mais si c'était lui qui avait fait l'exposé, il vous dirait c'est un nouveau monde peut-être, mais il débute tout juste parce que ça, c'est le dernier né du laboratoire. Et vous voyez que cette fois, les cages ne sont plus de 34 angström, mais de 50. Et nos études portent actuellement sur l'insertion de l'insuline qui ne rentrait pas dans les autres. Donc, comme je disais, si Lavoisier avait fait cette conférence, il vous dirait votre très humble et bien obéissant serviteur. Quant à moi, ce travail, je ne l'ai pas fait tout seul. Je l'ai fait avec une équipe de jeunes formidables. Et avec eux, je vous remercie de votre attention.
Merci, Monsieur Ferret. Eh bien, nous ouvrons aux questions. Après, tout de suite en haut, voilà, monsieur. C'est monsieur, oui.
Quelle différence faites-vous du point de vue des mécanismes physico-chimiques entre les cryptates et les molécules ou macromolécules que vous utilisez?
J'ai mal compris votre question, pouvez-vous la répéter?
Quelle différence faites-vous entre, du point de vue des mécanismes physico-chimiques, entre les cryptates de Jean-Marie Lène, donc, qui font référence à la chimie supramoléculaire, et votre propre chimie?
Vous avez partiellement répondu à la question que vous me posiez. Les cryptates, ce sont des supramolécules. Qu'est-ce qu'une supramolécule? C'est l'association de petites molécules avec des liants minéraux ou inorganiques pour former ces molécules qui sont capables d'insérer après d'autres molécules. La grosse différence qu'il y a entre les cryptates de Jean-Marie et mes produits, c'est que ces cryptates sont des molécules isolées. Isolées les unes des autres, les liaisons qui lient les cryptates entre eux sont des liaisons hydrogènes, donc faibles. Donc des produits plus fragiles. Alors que les nôtres, c'est un édifice infini de liaisons fortes. Donc en termes de stabilité, c'est beaucoup plus intéressant. J'en discutais encore l'autre jour avec Jean-Marie, et si le concept lui-même reste strictement le même, l'association d'un organique et d'un inorganique, la manière dont sont générés les cryptants oblige de facto à ce qu'on ait un édifice zéro dimensionnel. La méthode que j'ai appliquée génère systématiquement des édifices tridimensionnels. D'abord parce que je travaille à plus haute température, et vous avez vu que si j'augmente la température, la condensation des briques inorganiques augmente. Mais fondamentalement, c'est le même concept, et il n'y a pas du tout d'opposition entre la chimie supramoléculaire et la chimie des hybrides que je développe. C'est simplement la différence se fait en un contraste de liaison chez Jean-Marie et une unité de liaison, tout au moins sur le squelette, dans mon labo. Mais le concept reste le même.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Tout d'abord, félicitations pour la pertinence de vos travaux, vous et l'équipe que vous dirigez. La clarté de votre exposé, et je voulais vous poser la question qui était de savoir, puisque ça semble être une approche un peu fondamentale et que le but de vos recherches et de ce que vous avez trouvé serve de, d'après ce que j'ai compris, d'introduction d'un médicament dans un organisme, est-ce qu'il existe, à votre avis, un modèle comparable dans la biochimie qui puisse servir de modèle à ce que vous avez vous-même inventé? C'est-à-dire que, est-ce que l'organisme construit lui-même des modèles comparables? Est-ce que c'est...
Je suis bien en peine de vous répondre, d'abord, parce que je n'ai pas l'imagination de mes collègues. Vous savez, dans ce domaine, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a de limite qu'à notre imagination. Et je fais de mon mieux avec mes jeunes, mais je ne peux pas vous donner l'exhaustivité de ce qu'on peut faire. Et justement, mon vrai espoir, c'est d'avoir généré des idées chez les autres. Moi, vous savez, la compétition, c'est une chose, mais la propagation d'idées nouvelles, c'est beaucoup plus important.
Oui, c'est pour ça que je posais la question, savoir si c'était un point de départ ou si c'était une arrivée dans votre esprit.
Je pense que si les gens sont imaginatifs, ce doit être un point de départ. Ils n'auront plus à passer le temps que j'ai perdu, les années que j'ai consacré à expliquer comment ça se formait. Maintenant, c'est un fait acquis par la communauté. On sait que si on fait tel produit dans telles conditions, donc la brique, elle existe pendant la réaction. Ça leur fait gagner beaucoup de temps. sans avoir à se poser de questions. Donc ça, j'en suis un peu fier. Mais maintenant, c'est à eux de jouer aux maçons. Vous savez, moi je viens de prendre ma retraite, après 50 ans de loyaux services, mais ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir fait de beaux enfants. Et ceux-là, c'est leur vie maintenant, et c'est à eux de le trouver. Vous voyez, par exemple, pour les médicaments, une des dernières idées de celui qui m'a succédé, comme responsable du groupe, il a à peine 40 ans, brillantissime, mais ils ont déjà eu l'idée, plutôt que d'utiliser un ligand organique quelconque pour encapsuler le médicament, ils ont fait un raccourci absolument saisissant. C'est-à-dire qu'ils ont pris le médicament comme partie hybride du solide poreux. Et ils détruisent. Ça, c'est du, pour moi, c'est d'une élégance rare et ça n'avait jamais été fait. Donc, vous voyez, place à l'imagination. Tout est possible. Dans les limites, bien sûr, de la thermodynamique, ce que j'avais pris la précaution de préciser dès le départ. Sinon, il n'y a pas de limite théorique.
Monsieur, au centre.
Oui, en complément de la question précédente, à quel moment de vos recherches vous avez eu l'intuition des applications possibles ? Vous êtes donc parti d'une recherche théorique, extrêmement théorique, telle que vous l'avez exposée, mais à un moment donné, ça a dû déclencher chez vous l'intuition de à quoi pouvait bien servir tout ça. Est-ce que vous pourriez préciser ce point ? Merci.
Merci de cette question. D'abord, hein, je n'ai pas tout découvert. Les propriétés, celles qui étaient utilisées par mes collègues des éolites étaient connues depuis longtemps, le cracking, la séparation, la chimie fine, etc. Donc, tout cet aspect, je n'ai, comment dire, fait qu'utiliser leurs résultats pour essayer de faire de même et comparer à ce qu'ils trouvaient eux. Alors, par contre, sur les autres propriétés, en particulier sur les propriétés physiques, il y a eu deux étapes essentielles. La première, ça a été de comprendre comment il se faisait. Et une fois que j'ai compris comment il se faisait, on a fait des grands trous, ce que les autres ne faisaient pas. J'avais donc une spécificité de grands trous, et ce n'est pas moi qui dis la nature a horreur du vide, c'est Aristote. Donc, ma question a été de dire qu'est-ce que je vais mettre dedans. Et ça, c'est pour les pores. Et le deuxième événement, c'est quand j'ai été capable de remplacer l'aluminium ou le gallium dans le squelette par des éléments de transition. Simultanément, à partir du moment où j'ai montré que c'était possible, à partir de ce moment-là, je pouvais avoir accès au magnétisme sur lequel j'avais travaillé quelques années. Mon ami Michel Verdaguer pourrait en témoigner. La conductivité. Et vous avez après, une fois, le plus dur, c'est de tirer sur un fil. Et après, la réflexion fait qu'on tire sur le fil, qu'il vienne de nouvelles idées, etc. Mais il y a un point essentiel, c'est la nucléation de l'idée. Et après, ouais, par exemple, pour les matériaux d'électrode, l'idée me titillait, mais je n'étais pas capable, moi, avec les appareils que j'avais au labo, d'introduire électrochimiquement du lithium. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai téléphoné à mon ami Tarascon, je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai une idée, ça serait bien que tu la testes. Il m'a dit, mais tu viens quand tu veux. Et voilà. Donc, c'est, on n'est jamais l'homme providentiel, j'y crois pas en science. C'est d'abord un travail d'équipe, et c'est pour ça que je tiens toujours à associer mes jeunes. Hein. Mais on n'est pas omniscient. On a quelques lueurs dans un domaine un peu particulier, mais on a tellement besoin de la compétence des autres. L'important, c'est qu'ils l'acceptent. J'ai répondu à votre question.
Je crois qu'on va en rester là, parce que c'est vraiment une belle fin. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.